Vous écoutez
RMC. RMC Intégral Foot.
Christophe Cessieux.
Bonsoir à tous, la journée de Ligue 1 se poursuit avec les deux derniers matchs encore à jouer. Dans un instant, Lille-Clermont et évidemment ce soir, le match entre Monaco et Marseille, plus exactement entre Marseille et Monaco. Roland Courbis à mes côtés, comme tous les dimanches. Salut Roland.
Salut Christophe et salut à tous.
On reviendra évidemment sur les résultats de cet après-midi avec une nouvelle défaite pour les Girondins de Bordeaux qui s'enfonce au classement. Défaite...
Surtout quand on a un adversaire direct. Pour le maintien, ça c'est sûr que c'est doublement emmerdant ces défaites.
Et puis de l'autre côté, on a vu la victoire de Saint-Etienne. On y reviendra tout à l'heure. Saint-Etienne qui a communié avec son public et qui souffle un petit peu, même si évidemment rien n'est encore fait. Pour l'instant, direction le stade Pierre-Mauroy à Villeneuve-d'Ascq. Lille-Clermont, c'est le prochain match qui va donc opposer ces deux équipes. Timothée Mémon, lui aussi, il est soulagé, accompagné de Jean Mohamed cet après-midi. Bonjour les garçons.
Bonjour Christophe. Bonjour coach, bonjour à tous, salut, c'est parti à l'instant à Pierre-Mauroy. Effectivement, je suis léger, je suis très très léger cet après-midi, vous allez voir, je vais être de bonne humeur avec ce ballon, ce premier ballon dans les pieds Lillois. On va en profiter justement Jean pour donner la composition des Lillois.
Ah, il était soulagé le team quand j'étais le chercher tout à l'heure avec le 1-0 à 15h, il était tout bien. Alors du côté du LOSC, la compo, Léo Jardim qui était incertain suite à son coup à la cheville, hein, son coup provoqué entre guillemets avec le choc avec Paqueta qui avait fait couler beaucoup d'encre avec ce but refusé à Lyon, est bien titulaire. En défense, on retrouve à gauche Diallo, dans l'axe Botman, Fonte, à droite Celik, au milieu Sheka et André. Et là donc on va voir la position des joueurs, la Bamba à gauche et puis notamment au milieu de terrain donc Sheka avec André et Renato Sanchez à droite, et devant on a Ben Arfa avec Jonathan David.
Et la composition de Clermont avec Oupariñ Djoko dans la cage, une défense Seydou Tondi sur le côté droit, Zedaka sur le côté gauche, Nsimba à la récupération, Johan Gastien et Salis Abdoul Samed sur le côté droit, Lucas Dacunha sur le côté gauche, Rachani en soutien de Greg John Kay qui tient l'attaque. Et bien ce sera Jason Berthomier dans cette position de 9,5 ou de numéro 10, c'est selon. Ballon en tout cas dans les pieds de Renato Sanchez qui a vraisemblablement un positionnement libre. C'est à cela qu'il faut s'attendre dans cette rencontre, dans ce 4-2-3-1 finalement mis en place par Jocelyn Gourvennec. On risque de voir pas mal intervertir Ben Arfa, Bamba et Renato Sanchez, et ça a déjà commencé dès le début de cette rencontre alors que la possession est lilloise.
Ouais, et un peu plus à droite, on va voir comment ça évolue. En tout cas 0-0, 2 minutes de jeu. On rappelle que Lille doit absolument continuer à prendre des points pour aller en Coupe d'Europe, c'est l'objectif du club. Il y a ce match retour contre Chelsea le 16 mars prochain ici même, stade à guichet fermé. La mission sera compliquée avec deux buts à remonter.
Et Ben Arfa, c'est sa première titularisation, non?
Non, c'est la troisième.
Non, contre Lyon, il était titulaire, et contre Paris aussi.
Ah ouais.
Voilà, donc Bourak n'est pas en grande forme, il a toujours un problème au niveau du pubis, il est sur le banc là. Et c'est vrai qu'il n'a pas non plus 40 000 choix, Jocelyn Gourvennec, parce que sincèrement, coach, Timothy Weah, c'est un peu moyen. Liadji, on ne sait pas pourquoi il ne joue pas beaucoup. Attention quand même avec les Lillois qui sont à l'attaque avec Ben Arfa. Et puis aussi Angel Gomez qui est un peu jeune.
Et justement là, c'était Ben Arfa qui était à l'entrée de la surface de réparation, qui aurait pu glisser ce ballon avec un peu plus de spontanéité. Toujours est-il que le ballon reste lillois avec Sheka qui trouve Bamba pour Thiago Diallo qui lève la tête, qui va revenir sur ses pas, retrouver Jonathan Bamba qui s'appuie sur Atem Ben Arfa qui a un petit peu de champ, qui essaye de s'appuyer sur Sheka. Elle est pas bonne cette passe, elle a été touchée par un joueur clermontois. Ils vont pouvoir ressortir, pas pour l'instant, dans la récupération lilloise avec le centre de Renato, la tête de Bamba à l'ouverture du score en faveur du avec ce ballon déposé par Renato Sanchez. Quelle passe décisive, délicieuse, merveilleuse sur la tête de Jonathan Bamba. C'est pas le plus grand, c'est pas celui qui a le meilleur timing aérien, mais quand la passe est aussi belle, il suffit de mettre le front et ça fait but 1-0 en faveur du LOSC. Après quelques secondes de jeu seulement, les Lillois sont devant
avec donc Sanchez sur le côté droit. Paris gagné par Jocelyn Gourvennec, le centre, la tête de Bamba qui n'a pas marqué depuis plus d'un an, ça fait un paquet de temps qu'il n'avait pas marqué l'attaquant lillois. 3 minutes de jeu et Lille qui ouvre le score. Ça faisait longtemps que Lille n'avait pas mis un but aussi rapidement dans un match. Voilà, Lille pour l'instant on verra, c'est le début du match,
le centre est magnifique,
ils ont fait le plus dur, peut-être.
La tête elle est super, juste là où il faut la mettre, c'est-à-dire à côté de là où il y a le centre, mais le centre il est magnifique.
Ah, le centre est absolument splendide. C'est la quatrième passe décisive de la part de Renato Sanchez depuis le début de la saison. C'est un peu en dessous de ce que l'on pourrait espérer de la part d'un tel joueur, mais tout de même ça reste quand même intéressant. Et Jonathan Bamba qui n'avait plus marqué depuis
un an,
47 matchs si je me trompe pas, 46 ou 47 matchs, et bien a enfin marqué un but de la tête. C'est vraiment pas sa spécialité, pourtant et bien le voilà enfin buteur, premier but de la saison donc nécessairement, vous l'avez compris,
à l'ancien Stéphanois
comme
plus.
Par hasard.
C'est fait. Tout est prévu, tout est bien calculé cet après-midi. Voilà, 1-0 pour le LOSC.
Voilà, une ouverture du score très très précoce, hein. Roland qui va soulager un peu les Lillois et qui va être contraint les Clermontois à sortir de leur coquille.
Je dis pas que le plus dur est fait, mais un peu quand même. Ouais. Parce que ouvrir le score dans ce genre de match-là, c'est quand même pas évident. Et cette équipe de Clermont, on l'a vu ces derniers temps, c'est pas facile de la battre. Et là, c'est quand même une très très bonne chose.
1-0 donc pour le LOSC face à Clermont. On écoute évidemment et on a une oreille et un œil attentif à ce qui se passe. On va revenir sur les autres événements sportifs de l'après-midi et puis vous présenter aussi tout ce qui va se passer encore dans la soirée. On va vous parler tout d'abord du premier Grand Prix moto de la saison qui se disputait cet après-midi sur le circuit de Losail au Qatar et qui a vu non pas Fabio Quartararo s'imposer, loin de là, mais un Italien nommé Enea Bastianini sur Ducati remporter cette première course. Paul Lafitte nous a fait vivre la course. Salut Paul.
Salut Chris, salut coach et rebonjour à toutes et à tous. C'est ravi de te retrouver sur les lignes, Christophe, évidemment.
Ah ben bah oui.
Après des semaines un petit peu compliquées au niveau de la technique.
Ouais, t'étais poursuivi par un chat noir.
C'est
ça y est, t'as réussi à t'en débarrasser. C'est pas mal. Alors, le chat noir, en revanche, il est toujours sur la Yamaha de Quartararo. On attendait beaucoup de lui aujourd'hui, même si on savait que ce serait compliqué parce que les essais d'intersaison n'ont pas été réussis. Bah, ça s'est vérifié dès le premier Grand Prix. Il est 9e, c'est pas du tout la place qu'on attendait pour un champion du monde, mais on s'y attendait un peu.
Non, Christophe, ce n'est pas la place qu'attend évidemment le champion du monde en titre, Fabio Quartararo, mais comme tu le précisais, au vu des essais d'intersaison, au vu des qualifications hier, on rappellera que Fabio s'est lancé de la 11e position sur la grille, avec deux positions d'avance sur Juan Zarco, l'autre pilote tricolore. Eh bien, dans ces standards-là, on ne pouvait pas espérer beaucoup mieux qu'un top 10. C'était d'ailleurs les mots hier en conférence de presse du pilote officiel Yamaha, qui a pourtant très bien débuté cette course, puisque en s'élançant 11e, il était 7e à l'issue de la première boucle, mais il n'a fait que glisser au classement pour se faire, Christophe, dépasser dans la dernière ligne droite du dernier tour par Juan Zarco, qui au contraire, lui, qui s'est lancé 13e, s'est retrouvé 20e à l'issue du premier tour et qui n'a cessé de grignoter son retard pour revenir donc en 8e position lors du dernier tour, au nez et à la barbe de Fabio Quartararo. La Ducati, on le sait, sera certainement la machine à battre cette année. La Yamaha est...
S'ils ne se font pas tomber les uns les autres, hein.
Oui, même si on a vu effectivement cet après-midi que deux pilotes Ducati, Pecco Bagnaia, le vice-champion du monde, a perdu l'avant de sa machine au bout de la ligne droite et a emporté Jorge Martin, le pilote Ducati, le coéquipier de Juan Zarco, donc en bout de ligne droite. Martin, auteur de la pole position, donc deux pilotes Ducati qui étaient à terre. Jack Miller, l'autre pilote officiel Ducati, a lui abandonné. Ce n'est pas un excellent résultat pour la formation italienne. En tout cas, tu le précisais, Enea Bastianini, champion du monde de Moto2 en 2020, qui avait terminé sur un podium lors du sacre de Fabio Quartararo la saison dernière, et bien remporte à la surprise générale sa première victoire en MotoGP. Christophe, il avait cependant claqué un deuxième temps hier lors des qualifications, ce qui veut dire que la Ducati du team Gresini était déjà performante en qualification et il l'a prouvé cet après-midi en course qu'il était capable, Christophe, de s'imposer au nez à la barbe des meilleurs, notamment de Marc Marquez ou encore des pilotes Suzuki. Donc c'est un pilote à suivre évidemment pour cette saison de MotoGP.
Paul, est-ce que on peut imaginer que la Yamaha fera des progrès au cours de la saison, ou est-ce que c'est une année galère qui débute pour Quartararo?
Ce sera certainement une année très galère pour le pilote officiel Yamaha. Un manque de grippe, il le disait hier après les essais qualificatifs, un manque de stabilité aussi dans les courbes rapides et un déficit de puissance, ce qui veut dire que la Yamaha risque de souffrir tout au long de cette saison. Alors évidemment, chez Yam, on compte apporter évidemment plusieurs modifications, notamment au niveau du package aérodynamique pour permettre permettre à Fabio eh bien de grignoter un petit peu son retard, mais avec ce déficit de puissance. Et lorsque l'on voit comment les Ducati fonctionnent dès cette première course ici au Qatar à Losail, on voit mal comment le pilote français pourrait sur l'ensemble d'une saison rivaliser donc avec les Bastianini, avec les Pecco Bagnaia ou encore Jack Miller. Ça semble en tout cas, Christophe, la saison sera très longue, hein, 21 courses au total, mais on voit mal comment le pilote français pourrait rivaliser avec ses principaux rivaux.
Bon, eh ben, c'est pas une bonne nouvelle, ça, évidemment, d'autant que voilà, la France était enthousiasmée pour Quartararo la saison dernière, mais s'il fait des 8 ou des 9, je pense que l'engouement va retomber un peu.
Oui, hein, d'accord, mais il paraît que c'est quand même un peu moins important qu'en Formule 1.
Ah ouais, mais bon, quand même, si tu conduis un vélo face à des motos, tu vas pas gagner non plus. Hein,
une trottinette non plus.
Bon, même si on lui met des roues supplémentaires.
Christophe, bon. Juste un petit mot rapidement, le prochain rendez-vous, ce sera le 20 mars en Indonésie. C'est un nouveau circuit, le tracé de Mandalika. 20 mars, ce sera également la reprise de la Formule 1.
Il n'y a pas un tracé en descente?
Non, ça n'existe pas encore. Peut-être un jour.
Non, pas encore, coach. On soumettra l'idée bien au Continental Circus.
Et qui a failli mettre le doublé, mais ça passe à côté. Toujours 1-0 pour le LOSC. 10 minutes de jeu.
Merci, Paul. On va évidemment revenir sur le foot avec Jean et avec Timothée. Lille-Clermont, puisque le score a déjà été ouvert par les Lillois en tout début de match, messieurs.
Ouais, on disait un but de Jonathan Bamba, son premier but depuis le 17 janvier 2021. J'avais une petite interrogation sur le fait que ce soit 46 ou 47 matchs. Ça faisait 46 matchs. C'était le 46e match en tout cas.
Ça faisait plus d'un an.
Au moins, toi, tu t'étais pas mouillé et t'avais bien raison.
Tu casses pas la tête.
En tout cas, 1-0 en faveur de Lille après 10 minutes de jeu.
Ce tir du gauche de Bamba, c'est tout simplement horrible.
17h,
ça le fait rire.
Mais avec deux buts de suite, ça fait beaucoup.
Ouais, coach, quand t'as pas marqué depuis 46 matchs, tu vas peut-être pas mettre un doublé tout de suite.
Ouais, c'est vrai, c'est pour ça que ça donne.
Ah, il se sent des ailes, il se sent pousser des ailes. 17h15, vous êtes sur RMC. L'intégral foot revient dans un instant.
RMC, intégral foot.
Christophe Cessieux.
17h19, vous êtes sur RMC. Si vous avez loupé le début de Ligue Clermont, vous avez loupé l'ouverture du score. Signé. Pardon ? Qu'est-ce qu'il dit ?
Non, je disais, j'ouvre le micro de Sim.
Oui,
voilà.
Raison, oui.
J'aime bien de le dire à l'antenne parce que ça intéresse tout le monde.
Ah oui. C'est bien. Ouvre le score. Oui. Jean et Timothée, les Lillois, et donc un buteur providentiel.
Jonathan Bamba, effectivement, qui avait plus marqué depuis très longtemps, qui ouvre le score. Il faut le rappeler sur une magnifique passe de Renato Sanchez, absolument splendide, déposée sur la tête de l'ancien Stéphanois. Le ballon est dans les pieds à Lillois avec Jonathan Bamba qui s'appuie sur Zeki Sélik. Zeki Sélik qui retrouve Benjamin André dans l'axe, qui va revenir en retrait vers José Fonte. Il faut dire ce qui est, depuis maintenant 15 minutes de jeu, on a très très peu vu cette équipe de Clermont.
Ah ouais, non, franchement, là, elle remonte le ballon tranquillement, mais bon, il y a eu un petit flottement là avec la défense de Lille et un Cheka qui râlait auprès de l'arbitre et du juge assistant, notamment sur Monsieur Léonard. Et il a un peu délaissé ses partenaires, et c'est le genre de faute d'inattention qui peuvent te coûter une action et un but. Voilà, avertissement sans frais, parce qu'il y a eu une sortie un petit peu compliquée pour Léo Jardim. Le gardien du LOSC, qui est brésilien, rappelons-le, et non pas portugais, comme l'ancien coach de Monaco. Ils ont le ballon, ils attendre maintenant les Lillois. Alors c'est vrai qu'ils ont marqué ce but rapidement, Tim. Du coup, on a l'impression qu'ils vont attendre pour les contrer, essayer d'en mettre un deuxième. Ils vont certainement pas trop se fatiguer, les joueurs du LOSC. Il y a des échéances importantes. Il y a un match contre Saint-Etienne dès vendredi prochain, ici même. Et après, il y aura le mercredi suivant la réception de Chelsea pour le match retour. Donc, alors, on va pas commencer dans la gestion physique. Mais en tout cas, ils ont fait le plus dur, Lille, c'est de marquer.
Rappelez aussi que cette équipe de Clermont est orpheline de son buteur habituel, Mohamed Bayo. Qui est blessé, c'est le meilleur buteur clermontois depuis le début de la saison avec 10 réalisations. On retrouve donc Gretjon Kjaer, c'est un nom qui parlera peut-être à certains, peut-être à toi Jean, puisqu'il a été notamment dans l'équipe B de Lens, mais que l'on a surtout connu sous le maillot de Reims, puis qui est parti faire les beaux jours du Servette de Genève, où il a joué 2 saisons et demie, il a marqué 25 buts tout de même, mais il n'était pas forcément dans les plans en ce début de saison, en tout cas souvent remplaçant. On l'a un petit peu fait tourner au Servette. Résultat, il a signé avec cette équipe de Clermont, et il est là pour remplacer aujourd'hui Mohamed Bayo, mais ça n'est pas tout à fait un attaquant dans pleine confiance que l'on a à la pointe de l'attaque des Clermontois pour cette rencontre. Et ça se sent un petit peu dans ces premiers instants. En tout cas, les Lillois ont du mordant avec ce premier but inscrit, la récupération au-delà de la part des Lillois. Ça revient dans les pieds de Benjamin André qui va se présenter seul. La frappe, la parade absolument magnifique de Djoko,
ou Parim Djoko. C'est un geste de buteur, ça.
qui est bien sorti. Alors effectivement, Benjamin André, c'est pas nécessairement la position dans laquelle il est habitué à se présenter. Il était seul face à Oupariñ Djoko. Il a essayé d'aller chercher à droite du gardien qui s'est bien couché. Corner à suivre.
Mais la relance, hein, franchement catastrophique des Clermontois. On va suivre le corner. C'est parti au premier poteau avec une déviation lilloise, celle de Benjamin André après cette tentative de Ben Arfa sur le corner. Le ballon est toujours lillois avec Renato Sanchez. Ils sont tous dans le camp de Clermont. Renato Sanchez, c'est bien fait. Le ballon dans le dos de la défense, le centre de Benjamin André, mais il n'y a personne au niveau du point de pénalty pour récupérer ce ballon et ça va être dégagé par les joueurs de Pascal Gassien. Début de match très compliqué pour les Clermontois qui sont menés, en rappelons-le, 1-0, 17 minutes.
Oui, des Lillois plutôt, plutôt sympas à regarder. Roland, bon début de match hein, des Dogs.
Oui, absolument. Et puis là, on est en train un petit peu de réfléchir combien ça peut faire de points pour Lille en cas de victoire. Mais on réfléchit aussi avec le bas du classement. Et c'est sûr que cette équipe de Clermont, en plus sans Blaio, ça me paraît être quand même très 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 moyen.
Voilà, Clermont qui pour l'instant a encore une toute petite marge d'avance.
Attention,
sur les équipes relégables. Mais
ouais, Christophe, je sais pas ce qu'en pense coach. Effectivement, ils ont une toute petite marge comme tu dis. Ils ont actuellement 28 points les Clermontois, mais Clermont devra jouer contre le Paris Saint-Germain d'ici la fin de la saison. Et puis derrière, on s'aperçoit que des équipes qu'on pensait mortes comme Saint-Étienne, comme Troyes, ben ça bouge encore, ça bouge encore. Ah, et finalement, il y a que 3 petits points hein, entre Clermont et cette équipe de Saint-Étienne. Lorient, à tes yeux, coach, Lorient, ouais. c'est la plus inquiétante, plus ouais. que Bordeaux
ou Metz. C'est peut-être pas plus, mais au moins autant.
Et allez, les calendriers hein, pour Bordeaux qui va au PSG le prochain match, pas évident non plus. Hein.
Ouais, PSG et Lille hein, pour le prochain match.
Montpellier entre deux et Lille ouais. après. Ouais, et on sait qu'il y a une bonne ambiance entre les présidents, Lillois et. Les Bordelais.
Calendrier compliqué effectivement pour les Bordelais. Attention donc aux Clermontois de ne pas se reposer sur leur laurier et sur des victoires, c'est sûr, qui ont fait du bien face à des gros cylindrés, mais qui ont peut-être aussi parfois été un peu en trompe-l'œil et qui ont peut-être surtout prouvé les défaillances de leurs adversaires plus que leur qualité à eux, Clermontois. Bref, il va falloir la conserver, cette petite avance pour Clermont. Et pour ça, il faudrait essayer de prendre un point aujourd'hui. Pour le moment, ils sont menés 1-0. But de Jonathan Bamba dans les toutes premières minutes de jeu, et ce sont encore et toujours les Lillois à l'attaque.
Avec Diallo qui joue au poste de latéral gauche. Lui, vraiment, c'est étonnant, en tout cas la saison. Il aura joué partout en défense dans l'axe où il est très bon. D'ailleurs, son poste de prédilection à droite, à la place de Celi qui était en délicatesse physiquement. Et puis là, même Bradaric se fait quand même piquer la place par un spécialiste du poste dans l'axe de la défense. Autant dire qu'il est, voilà, il est sur le banc dans ma gauche de Bradaric depuis le départ de Reynildo. Il n'a même pas réussi à récupérer un poste de titulaire. C'est très compliqué pour le Croate. Et là, ballon perdu. Oui. Les Lillois qui voilà, vont voir la défense clermontoise gérer cette balle.
Et les Lillois qui, pour l'instant, gèrent tranquillement leur match. Ils mènent 1-0. Ils ne sont pas du tout inquiétés par Clermont. Donc, après 20 minutes de jeu, 1-0. On vous le rappelle pour les Lillois. On continue d'évoquer le reste de l'actualité sportive de ce dimanche. On va tout de suite sur les routes de Paris-Nice retrouver Arnaud Souk qui nous a fait vivre la première étape de la course au soleil remportée par un Français. Et oui, Christophe Laporte qui s'est imposé. Christophe Laporte, membre de l'équipe de Van Aert et de Roglic, la Lotto Jumbo qui vraiment a été impressionnante aujourd'hui. Mais puisque oui, les trois hommes ont terminé aux trois premières places. Ben oui, les frelons ont piqué
les
très fort aujourd'hui.
Des Pays-Bas, oui, ouais. Ils ont. C'était incroyable ce qu'ils nous ont fait. Alors j'ai dit dans la folie du direct, ça me fait penser. Tu dois t'en souvenir, toi, Christophe, de tes yeux à ce Paris-Roubaix que les Mapei avait écrasé, ouais, oui. Je sais plus en quelle année, c'était en 96, je crois, si ma mémoire est bonne, où trois Mapei étaient arrivés aux trois premières places. Eh bien, ça m'a fait un petit peu penser à ça aujourd'hui. Voilà, ce durcissement de la course dans la dernière difficulté de la journée de la part des Jumbo-Visma. Il y avait eu un gros travail qui avait été fait d'abord de la part de Juan Dennis ou encore de Mike Tenissen, qui étaient les coéquipiers donc de Primoz Roglic, de Wout Van Aert et de Christophe Laporte. Et donc, ils ont réussi à faire exploser tout le monde. Tu l'as vu, et ça s'est soldé par une victoire, la première en World Tour, dans la première division du cyclisme mondial pour le Français Christophe Laporte, qui vient tout juste justement d'intégrer cette équipe Jumbo-Visma. Je te propose propose peut-être de l'écouter, Christophe Laporte, parce que c'était quand même une petite émotion pour lui il y a quelques minutes.
Ouais, c'est incroyable, il y a vraiment une bonne entente dans toute l'équipe. On s'entend tous très bien, on travaille dur, mais on rigole comme voilà, dans beaucoup d'équipes. Et voilà, je suis très heureux qu'il me fasse ce cadeau aujourd'hui. Voilà, c'est quand même une étape de Paris-Nice, c'est un maillot jaune à porter. Donc voilà, c'est vraiment beau de leur part et je leur redresse.
Voilà, il parle de cadeau, Christophe Laporte. Oui, un cadeau, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on pouvait légitimement penser que Primoz Roglic, jouant le classement général, on allait laisser la victoire d'étape à Primoz Roglic pour qu'il prenne en plus de l'avance sur le chronomètre des bonifications supplémentaires. Eh bien non, à 1 km de la ligne, c'est Sir Wout Van Aert lui-même qui est venu souffler, murmurer à l'oreille de Christophe Laporte, c'est pour toi aujourd'hui. Donc vraiment, oui, un beau cadeau, ouais, un cadeau bel esprit bienvenue. D'équipe,
un cadeau
sacré
bienvenue.
Collectif.
On rappelle qu'il vient d'arriver dans la formation de l'armée. Néerlandaise. C'est incroyable quand même que dès que les Français arrivent dans des équipes étrangères, ils montent d'un cran quand même.
Oui, alors bon, je mettrai un petit bémol quand même sur la question de Christophe Laporte, parce que ça faisait quand même un petit moment qu'il courait après cette première victoire en World Tour. Déjà l'an passé, il avait terminé deuxième d'une étape de Paris-Nice. D'ailleurs, si je raconte pas de bêtises, il me semble que c'est Primoz Roglic qui l'avait battu, qui l'avait sauté sur la ligne au sprint ce jour-là, pas loin de chez lui dans le Var. Voilà, ça lui arrivait quand même à plusieurs reprises à Christophe Laporte, y compris sur le Tour de France, de terminer en deuxième position. Là, il me confiait aussi il y a quelques minutes, puisque je l'ai revu après cette interview pour une deuxième interview, je lui ai demandé qu'est-ce qui a changé finalement pour toi, Christophe. Il m'a dit bah c'est bête, mais en fait dans cette équipe tout est au millimètre, en fait tout est au millimètre. On a fait un stage de 3 semaines en montagne, j'avais jamais été préparé avec autant de précision. Et bien voilà, ça fait peut-être la différence aujourd'hui, en tout cas pour Christophe Laporte.
Ouais, magnifique, parce que arriver à s'accrocher à la roue de Van Aert et de Roglic, qui sont vraiment des cadors du cyclisme mondial,
on peut avoir un petit moteur, hein.
Voilà. Super performance de Laporte aujourd'hui. On a d'un côté les Jumbo, les Lotto Jumbo, et de l'autre côté, on l'a vu hier, Pogacar impressionnant dans les Strade Bianche. Voilà, les positions sont déjà là, hein, pour la suite de la saison, et à n'en pas douter, ce Paris-Nice sera remporté par un des coureurs de la formation Lotto, à savoir lequel.
Oh, attention.
Ouais, voilà, évidemment.
Attention. Il peut s'en passer des choses.
Ouais. Hein. Qui y a d'autres? Oui, c'est vrai.
L'année dernière, voilà, et souviens-toi justement à quel point les suiveurs, enfin en tout cas une grande partie des suiveurs lui étaient tombés dessus quand il avait privé au col de la Colmiane Gino Madère de la victoire. On lui avait dit ouais, mais il laisse aucune miette aux autres. Et ben résultat, le lendemain il avait chuté à 2 ou 3 reprises, il avait perdu Paris-Nice comme ça sur chute. Donc bon, bref, tout ça pour dire qu'il y a quand même du beau monde. Il y a Maximilian Schermann, le double tenant du titre, qui est là. Il y a Guillaume Martin ou encore David Gaudu côté français. On a Brandon McNulty également pour le team UAE, on a Ben O'Connor pour le team AG2R, et puis on a Nairo Quintana quand même, le Colombien, qui fait un super début de saison, sans oublier les frères Yates, un chez Ineos, Adam, l'autre chez Bike Exchange, Simon Philippe Yates. Donc voilà, ça fait quand même du beau monde pour se battre pour le classement général. Et puis je vous ai pas cité Wout Van Aert pour la lutte finale, il sera pas loin de la vérité à mon avis.
Oui, de toute manière on sait qu'il est capable de remporter des courses sur tous les terrains. Très bien, merci beaucoup monsieur Souk. Demain donc deuxième étape, on continue la route vers le sud.
Farjis Orléans.
Voilà. Le contre-la-montre, il est programmé quand?
Il est programmé mercredi.
Très bien.
Voilà. Au pays de Julien Alaphilippe, qui n'est pas là, mais en tout cas, ça sera.
Et oui, il sera sur Tirreno, hein, Julien.
Absolument. Et Saline à partir de demain sur Tirreno, en dépit de sa chute d'hier sur les Strade Bianche. Voilà. Vous avez soleil vu comment incroyable. Il a fait le chat, comment il a fait son soleil, mais il a réussi à faire le chat pour retomber et pour éviter de retomber sur la tête. Il va bien, Julien Alaphilippe, je vous rassure.
Eh bien, tant mieux. Merci Arnaud. Un Français en jaune, donc, sur les routes de Paris-Nice. Christophe Laporte, vainqueur aujourd'hui, devant ses équipiers Van Aert et Roglic. 17h30, le temps, le score. À Pierre Mauroy entre Lille et Clermont. Timothée et Jean.
25 minutes de jeu, 1-0, le buteur Bamba à la troisième.
Très bien, et puis sachez qu'il y a aussi un petit match en Angleterre, Manchester City face à Manchester United, 0-0.
RMC Intégral Foot.
Christophe Cessieux.
Et nous vivons la première mi-temps de ce match entre Lille et Clermont, l'avant-dernière rencontre de cette journée de championnat qui se terminera ce soir à 20h45 par ce match entre Marseille et Monaco dont on vous parlera tout à l'heure. Coach, ça fait à peu près une demi-heure de jeu. Pour l'instant, la domination est flagrante. Domination lilloise qui mène en plus au score.
Pas facile pour Clermont d'égaliser. Je pense que même si un match de football réserve des surprises, si Lille marque le deuxième but, ben, le match pour moi sera terminé pratiquement.
Et peut-être sur corner, le deuxième pour le LOSC avec une tête. Oh, il était seul, Ben Arfa. Non, c'était André. Benjamin André qui se procure deux occasions en l'espace de un petit quart d'heure. Tout à l'heure, c'était un face-à-face raté avec une frappe non cadrée. Et là, bah, c'est une tête qui ne fait pas mouche pour le milieu de terrain lillois. Comme l'a dit coach team, il n'y a qu'une équipe sur le terrain, c'est Lille, on est à la demi-heure de jeu et 1-0. But, on rappelle, de Bamba la troisième.
29e, effectivement, et ce sont les Lillois qui sont devant 1-0. Attention tout de même à Lille de ne pas surdominer cette première période. On sait que parfois, et coach le sait, les matchs ressemblent à ça. Il y a une mi-temps pour chaque camp et il serait peut-être bon pour les Lillois de faire le break, de prendre l'avantage. Absolument. Un petit peu plus tôt, le plus tôt possible en tout cas, avec attention. Là, une faute de Gretjon Kay qui vient de mettre au sol Benjamin André qui a du mal à reprendre son souffle. Je crois qu'il est tombé sur l'épaule, ouais. Je sais pas si c'est la respiration qui est coupée ou si c'est l'épaule qui a tourné. Ça peut arriver dans ce genre de situation parce que le bras est en dessous. Ouais, ouais. Ça peut faire mal au bras ou à la clavicule. Mais il est costaud. Benjamin André, il va se relever, aidé par José Fonte, son capitaine. Le coup de sifflet en faveur donc des Lillois. Une demi-heure de jeu et ce coup de pied arrêté en faveur des Dogs.
Ouais, pour l'instant, ça se tourne bien du côté lillois. Ambiance sympa du côté du Stade Pierre-Mauroy avec un soleil, toit ouvert. Pelouse qui a été changée en janvier, ben qui se désagrège quand même malheureusement. Hein, elle n'est pas exceptionnelle. Il veut pas trop en parler, Jocelyn Gourvennec, parce qu'il dit voilà, je veux pas faire le calimero voilà de parler de cette pelouse pour expliquer.
Donc elle a été changée en janvier, elle est déjà pourrie là.
Ah mais c'est fou. C'est dingue. Changé en se disant bon ben on va faire bonne figure en Ligue des Champions avec le match de Chelsea. Franchement, ouais non c'est d'une tristesse. Hein. On rappelle que c'est un stade particulier qui la moitié de la pelouse. Hein, tu connais Christophe. On a vécu des Coupes Davis, des Euro de basket, du handball et la moyenne moitié. Il n'y a pas assez de terre en fait.
Il y a pas de la terre battue justement, je sais pas.
Ouais, attention à cette mauvaise relance de la part des Clermontois. Ça revient dans les pieds de Renato qui trouve Sheka dans la surface de réparation, mis au sol. Oh, monsieur l'arbitre a estimé que le ballon avait été gagné avant. Pourtant, il y avait peut-être bien accrochage dans cette surface de réparation. Gretjon Kay qui va mettre ce ballon sur le côté droit avec cette balle pour les Clermontois qui vont essayer de repartir, d'aller de l'avant avec cette balle côté droit pour Lucas Dacunha. Lucas Dacunha qui est repassé par l'axe avec Samed qui va chercher sur le côté droit. Mais qu'est-ce que ça manque d'inventivité, qu'est-ce que ça manque de spontanéité dans cette équipe clermontoise, et ce depuis le début de la rencontre. 31 minutes de jeu, toujours ce score d'un à 0 en faveur du LOSC face à Clermont.
Et sachez que Manchester City, après 5 minutes de jeu, mène déjà un but à 0 face à son voisin de United, but marqué par Kevin De Bruyne il y a quelques instants. 1-0, pardon, donc pour les Citizens.
Reste avec nous, Christophe, reste avec nous. On va prendre le relais. Tu prends un coup d'eau. Ouais, allez, il y aura un coup franc.
C'est un tigre.
Il y aura un coup franc en faveur des Clermontois sur le côté droit. Grosse contestation de la part des Lillois qui ne sont pas d'accord. Et c'est surtout Sheka qui vient réclamer une faute au préalable dans la surface de réparation.
Ouais, il touche le ballon avant quand même.
En fait, dans un premier temps, le Clermontois le dépossède du ballon. Et dans un second temps, il l'accroche, c'est vrai.
Bon, compliqué à juger, je crois.
Compliqué. Moi, je pense que j'aurais pas sifflé, mais je suis pas un bon arbitre en même temps, donc ça, le problème, c'est pour ça que je suis en tribune. Ballon sur le côté droit avec ce coup franc en faveur des Clermontois. Un corner très ouvert pour l'équipe auvergnate avec cette balle à hauteur des 16,50 m. Il y a du monde dans cette surface de réparation. Tous les Lillois sont redescendus. Le public qui a répondu en non, hein, plus de 35 000 spectateurs aujourd'hui au stade Pierre-Mauroy, est en train de scander un aux armes. Et donc, le coup de pied arrêté à venir pour les joueurs du Clermont Foot Auvergne.
Avec Berthomier a priori pour le tirer avec son pied gauche, ça sera rentrant. Il y a danger pour lui parce qu'il n'y a que ce coup de pied arrêté que ça peut arriver. C'était peut-être cadré. Belle parade de Léo Jardim qui concède le corner, le premier corner pour les Clermontois. On va voir si à l'image c'était cadré.
Tiré, hein.
Mais en tout cas c'est bien tiré, c'est bien vu.
En tout cas il a essayé de tromper Léo Jardim. Il a été cadré avec ce ballon rentrant. On pouvait s'imaginer qu'il allait chercher une tête de l'un de ses partenaires. C'était parfaitement enroulé au premier poteau. Le corner qui suit, ballon mis en retrait. Le ballon une nouvelle fois à la surface de réparation. La tentative acrobatique, plus ou moins acrobatique, de la part des Clermontois et de Seydou. Finalement, ça va sortir en touche 1-0 en faveur de Lille après 33 minutes de jeu. Et le but, il a été inscrit à la troisième par Bamba.
Très bien, messieurs, on va aller faire un petit tour au hand avec un match international entre la France et la Croatie. Ça se passe à Toulouse. Les championnes olympiques qui ont battu les Croates, c'était jeudi 21-19. Et donc, c'est le match retour. Salut Morgane Maury.
Bonjour Christophe, bonjour à tous. Un match retour, oui, un match de poule, de qualification pour l'Euro 2022. Les Bleus sont en tête de leur poule. 3 matchs, 3 victoires. Et si elles emportent aujourd'hui contre les Croates ou si elles font un match nul, elles seront qualifiées pour le rendez-vous continental à l'automne. 6 minutes à Toulouse, 2 buts pour la France, mais 3 pour la Croatie. Les Croates en infériorité numérique, mais qui sont devant au tableau d'affichage. 3-2, 6 minutes en première période.
On a l'impression qu'elles n'arrêtent jamais les compétitions internationales avec le hand, c'est incroyable.
Jamais. C'est une année particulière, 2021, avec ces Jeux Olympiques qui sont arrivés un an après. Le rendez-vous de la Golden League, c'est le rendez-vous avec 3 autres grosses nations au cœur de l'automne, et à la fin de l'automne, début de l'hiver, la compétition internationale, un euro ou un championnat du monde, et elles sont engagées maintenant dans cette phase de qualification pour l'euro qui continuera le mois prochain.
Merci Morgane. Donc pour l'instant, c'est bien parti pour l'équipe de France. 17h39, les 10 dernières minutes à vivre de cette première mi-temps entre Lille et Clermont. On va quand même rappeler les résultats de la journée de Ligue 1, un match qui se déroulait cet après-midi avec des rencontres très importantes, notamment en vue du maintien, Roland. Et on va signaler donc la victoire de Saint-Etienne qui s'est imposé 1-0 face à Metz. On y reviendra tout à l'heure avec Edouard G, avec une communion incroyable avec le public de Geoffroy Guichard, match très important et victoire stéphanoise. Défaite également très importante et pour les Girondins de Bordeaux qui se sont inclinés 2-0 sur leur pelouse face à 3, Roland. Bordeaux qui va de mal en piste, c'est incroyable de perdre comme ça à la maison, en plus à 11 contre 10 Troyens.
Ah bah oui, ça c'est sûr que c'est inquiétant, d'autant plus que bon, on avait un gros problème en ce qui concerne la solidité défensive. Ça allait un petit peu mieux sur les deux derniers matchs. Et là, maintenant, il ne marque plus un but, alors qu'il marquait à tous les matchs. C'est cet équilibre pour le trouver. J'ai l'impression qu'il faut être un funambule.
Bordeaux, lanterne rouge de ce championnat avec 22 points, soit le même nombre de points que Metz battu par Saint-Etienne. Les autres résultats du jour, la victoire de Nantes hein, qui continue sur sa lancée, qualifié, on vous le rappelle, cette semaine pour la finale de la Coupe de France. Il s'impose 2-0 face à Montpellier. Match nul un partout entre Reims et Strasbourg. Et puis Rennes, là aussi, continue, poursuit son petit bonhomme de chemin. Les Rennais qui se sont imposés 2-0 face à Angers. Et au classement, les Rennais sont là.
Et bien Angers là, qui 6 défaites consécutives.
Ah ouais, il y a du rouge, beaucoup de rouge quand on regarde la position d'Angers qui est 14e avec 29 points, mais qui effectivement dégringole et qui n'est pas dans une période très faste. Voilà donc pour les matchs du jour. On vous rappelle qu'il y aura également une dernière rencontre tout à l'heure entre Marseille et Monaco. Allez, moins de 10 minutes à jouer dans cette première mi-temps. Lille qui mène 1-0 face à Clermont.
36e effectivement, 1-0 grâce à Jonathan Bamba, la 3e minute de jeu. Alors j'ai refait le compte, hein, je suis désolé, je tourne un petit peu en rond, mais j'ai refait le compte. En fait, je vous avais mis le nombre de matchs hors taxe TCC, toute compétition confondue, ça faisait 49 matchs qu'il n'avait pas marqué.
TCC, c'est pas mal,
voilà,
ça.
Toute compétition confondue, voilà, 49 matchs. Enfin, buteur Jonathan Bamba, le ballon est dans les pieds.
Ça fait un an et deux mois.
Toi, t'avais toujours la bonne date, hein. C'est bon, c'était le 17 janvier 2020. Un ballon dans les pieds à Clermontois. Des Clermontois, allez, qu'on voit un tout petit peu plus depuis une dizaine de minutes.
Ouais, avec des coups francs notamment, hein, plusieurs, et un corner sur le côté droit. Ça passe toujours à droite. Hein. Côté gauche, c'est un peu désert pour les joueurs de Pascal Gassien. Mais attention, la contrainte peut-être des Lillois avec un ballon donné pour Renato Sanchez. C'est bien fait de la part du joueur David qui lui rend la politesse. C'est difficile pour Bamba avec la récupération de balle de la part de Nsimba, mais il s'en sort bien. C'est bien, une belle protection de balle par rapport à Bamba. Et ça donne un peu de rythme à cette partie parce qu'on va d'un camp à l'autre, le team. Ça y est, on se réveille un peu dans les dernières minutes de la première mi-temps. On aurait préféré avant, mais c'est déjà mieux que rien.
Sacré point de vitesse de la part de Vital Nsimba qui a résisté à l'accélération de Jonathan Bamba et qui venait, lui, d'une trajectoire diagonale pour venir de son flanc gauche de la défense pour venir défendre dans l'axe. Voilà, bon retour de la part de Vital Nsimba. Important ce retour. Ballon dans les pieds lillois avec cette balle dans l'axe pour Atem Ben Arfa. Jonathan Bamba dans une position très axiale. On ne cesse de permuter sur le front de l'attaque lilloise avec cette balle pour Sheka. Sheka, le bon contrôle, magnifique, quel contrôle sublime de la part de Sheka qui a été mis au sol dans la foulée. Monsieur l'arbitre ne l'a pas vu, il n'a pas fini de décolérer. Sheka déjà qui lui en voulait de ne pas avoir signalé ce pénalty. Il est toujours au sol et les Clermontois se projettent à l'attaque.
Ouais, bah, sur ça, alors que Sheka est toujours au sol, le ballon côté droit pour les Clermontois, ballon en retrait avec peut-être Dacunia, le ballon qui est contré, la frappe contrée par un Lillois, alors que Sheka est toujours au sol et que peut-être l'arbitre va siffler. Voilà, c'est fait, on va voir ce qui s'est passé parce que on l'a vu tomber. Est-ce qu'il s'est fait mal tout seul ou a-t-il été percuté par un Clermontois? On n'a pas trop vu.
J'ai l'impression que dans son dribble, il a été arrêté par un Clermontois, Jocelyn Gourvennec, ivre de colère de voir que le jeu a continué alors que son joueur était au sol. Sheka, lui, en tout cas, semble souffrir. On le voit sur sa passe. Il appelle le 1-2.
Et un petit coup de pied.
Et un petit coup de pied. Est-ce que ça lui a retenu la cheville? Est-ce que ça a créé une torsion?
Il s'est emmêlé les pinceaux.
Ouais, je suis pas sûr que ce soit volontaire du Clermontois.
Non. Ça l'a déséquilibré, et s'est emmêlé les pinceaux.
Après, j'ai peur, coach.
Le seul truc qu'il peut avoir, c'est s'être tordu quelque chose ou une cheville ou un genou, mais je vois pas autre chose.
J'ai peur que dans son geste, en fait, le pied du Clermontois lui ait fixé la cheville au sol et qu'il était un peu possible. En surextension et que la cheville ait un petit peu souffert sur ce genre de moment. Bah, il fait pas très chaud, il fait très beau.
Si c'est ça, c'est emmerdant.
Et Onana qui s'échauffe, qui a quitté le banc. Alors, carton jaune pour Gourvennec qui n'est pas d'accord avec monsieur Léonard. Donc, c'est assez rare de voir d'ailleurs s'énerver comme ça. Jocelyn Gourvennec qui est assez calme généralement parce que. Rappelez-vous, lors du dernier match ici, c'était un peu chaud entre Lille et Metz. Hein, rappelez-vous, il y avait Frédéric Antonetti côté Messin, avec Olivier Létang et Sylvain Armand, mais Jocelyn Gourvennec était resté tranquille. Là, c'est lui qui s'énerve, c'est pour ça que je veux dire que c'est assez rare.
Ouais. Mais bon, il n'est pas BTBG aussi. Antonetti, alors. on l'embrasse d'ailleurs, Fred Antonetti. Ça faisait mal au cœur de le voir en tribune à Geoffroy Guichard dans un stade qui a les yeux de l'amour pour l'entraîneur corse. Quand on sait que sa carrière en Ligue 1 pourrait potentiellement s'arrêter à la fin de cette saison, il l'a en tout cas évoqué. On n'a pas envie de le voir finir comme ça dans les tribunes et de ne pas le voir sur sa zone technique, là où il nous a tellement donné à manger à nous médias. Faut dire ce qui est. Ballon qui va être rendu. Sheka a pu se relever. Il a effectivement une petite douleur à la cheville. Il devrait pouvoir tenir son rang. D'ailleurs, il me semble que Onana est revenu sur le banc. Il va pouvoir revenir Sheka sur la pelouse et le ballon sera donc rendu au Lillois qui était en possession de la balle. 40 minutes de jeu, 41 même, 1-0 en faveur de Lille, le but de Bamba à la 3ème et on aura des arrêts de jeu du coup.
Ouais, ça c'est sûr, on aura au moins 3-4 minutes de temps additionnel avec Sheka qui va revenir finalement, hein. Il était sorti là pour on a revu une petite image où on voit que le Clermontois lui marche sur le pied. Tant mieux pour lui, ça va mieux. Il n'y a pas eu de carton d'ailleurs sur le geste du Clermontois parce que je pense sincèrement que c'est involontaire. Le ballon qui circule côté lillois sur la droite avec Zeki Selic pour Renato Sanchez.
Allez, qui peut s'appuyer sur Ben Arfa. Pour l'instant, on le voit pas beaucoup, Atem Ben Arfa. Il est pas, c'est pas le joueur lillois le plus en vue, pas nécessairement très en jambes.
On sent qu'il y a un petit truc qui peut être déclenché, mais il l'a pas encore fait.
Ouais, ça fait à peu près une carrière que ça dure. Ballon dans les pieds de Sheka. Je suis un peu dur. Ballon pour Sven
Botman. Saison niçoise, allez, qui était magnifique il y a 4-5 ans.
Sven Botman avec Thiago Diallo sur le côté droit avec Jonathan Bamba. Jonathan Bamba qui va revenir vers Thiago Diallo. Attention, le pressing clermontois fonctionne plutôt bien et est en train de gêner les joueurs lillois. Ce ballon dégagé par Thiago Diallo, ce sera une sortie en 6 mètres. 42 minutes, coach, ce score d'1-0 et même si Clermont est un peu mieux dans ce dernier quart d'heure, on n'a pas l'impression qu'ils sont quand même tout à fait à la hauteur pour revenir dans ce match.
Alors je les vois pas dangereux du tout.
Non, ce qui est en plus en revanche pour Lille, ce qui est un peu embêtant, c'est que ils arrivent de cette saison rarement à se mettre à l'abri, avoir un petit matelas de but, deux buts d'avance, c'est quand même assez rare. Et comme le disait Tim tout à l'heure, ils sont pas à l'abri. Hein. T'es pas à l'abri de te faire avoir sur un coup de pied arrêté, un penalty. Et c'est ça. Et Lille, c'est ça, c'est un peu le résumé de cette saison. Jamais très loin, mais ils y sont jamais. C'est-à-dire que dans le top 5, ils arrivent pas là. Actuellement, ils sont 6e ex aequo avec Nantes. c'est plutôt intéressant. Hein. Heureusement pour Lille d'ailleurs que tous les cadors galèrent en dehors du PSG, mais Lille est à seulement pour l'instant que 4 points de Rennes qui est 4ème, avec une victoire pour le moment.
Et même 2 points de Strasbourg, première équipe européenne, en tout cas avec l'accessite à l'Europa Conference League qui serait confiée à cette 5ème place. C'est intéressant pour cette formation lilloise qui effectivement bénéficie de quelques équipes qui trébuchent, balbutient un petit peu leur football, à l'image de l'Olympique Lyonnais, de l'AS Monaco ou même de Lens, qui n'était pas programmé pour ça en début de saison, mais que l'on avait vu nettement plus haut dans cette saison. Il va rester une minute à jouer, Christophe, et pour l'instant, eh bien, Lille mène toujours 1-0.
Attention quand même au retour de Lyon qui a été impressionnant, hein, Roland, vendredi soir. Les Lyonnais qui sont à un point derrière Lille et derrière Nantes et qui ambitionnent évidemment de monter sur le podium. C'est vrai qu'il y a une grosse densité d'équipes qui sont susceptibles de monter sur ce podium, mais voilà, elles n'ont pas des progressions linéaires, toutes ces équipes.
Ah, puis bon, il y a pas de problème là. Il y a que la solution c'est de faire un parcours extraordinaire. Je crois qu'il reste 11 matchs pour les Lyonnais. Il faut qu'ils en gagnent 9, un nul et une défaite, donc c'est pas impossible, mais c'est compliqué.
Et un peu pareil donc pour les Lillois qui mènent toujours un but à zéro. 44e, il y aura sans doute du temps additionnel, hein, après la blessure. Il y aura 3-4 minutes. Sachez que Manchester City mène toujours un but à zéro face à United après 19 minutes de jeu. L'ouverture du score signé Kevin De Bruyne dès les 5 premières minutes de cette rencontre. Un petit tour au hand avec Morgan Mori. France-Croatie pour la qualif de l'Euro, de le prochain Euro.
Les joueurs coachés par Olivier Crumbles ont créé un petit écart, Christophe, 8-5 pour les Françaises à la moitié de cette première période. Un temps mort demandé par les Croates. 8-5 pour les Bleus dans cette première période. 15 minutes de jeu à Toulouse.
Allez, retour à...
Une minute de temps additionnel. C'est petite pas bien blague, payé, hein. Petite blagounette de la part du quatrième arbitre, hein, parce que franchement, il y avait largement plus. En tout cas, le score ne change pas, mais ça s'est un petit peu terni au niveau du jeu. Hein, on s'ennuie un tout petit peu quand même dans cette fin première mi-temps.
Attention avec les Clermontois, la surface de réparation. Berthomier qui peut écarter vers Dacunia sur le côté droit. Ce ballon qui sera finalement récupéré par Zedaka, qui a essayé de contourner la défense lilloise et qui va commettre la faute. Le ballon sera donc rendu aux Lillois. On y rentrait dans 7 minutes, donc dans cette unique minute de temps additionnel. On s'attendait un petit peu plus. Il va rester 40 secondes à jouer et les Lillois vont les grappiller ces quelques secondes pour rentrer au vestiaire avec cet avantage d'un but, un but inscrit par Jonathan Bamba très tôt dans cette rencontre sur une passe décisive absolument somptueuse de Renato Sanchez. Le dégagement pour Léo Jardim. Léo Jardim qui regarde au loin. Il y a Benjamin André qui réclame ce ballon. Le long ballon justement à destination du milieu de terrain lillois. Il va prendre ce ballon de la tête, peut-être pour Jonathan David dans un second temps. La défense clermontoise qui va écarter le danger et un ballon qui va revenir dans l'axe vers Gastien. La récupération de Ben Arfa, ça profite à Jonathan David. Ballon sur le côté droit pour Renato. La tentative de frappe de Renato et le retour important et même décisif de la part d'Alidou Seydou, l'ivoirien. C'est la fin de cette première période. 1-0 en faveur de Lille grâce à Jonathan Bamba.
Très bien, voilà, 1-0, ça c'est fait. 45 minutes encore Roland, et puis ce sera dans la poche pour les Lyons. On s'est pas vraiment régalé, il y a eu un bon premier quart d'heure, mais après
je reste toujours sur l'idée qu'on a tous, et il faut que Lille fasse le break impérativement, parce que même si c'est contre une équipe de clairement moyenne, un but, ça peut arriver.
Des magnifiques égalisations à l'instant de Manchester United avec une magnifique frappe qui vient se loger dans le but du gardien de City. Un partout après 21 minutes dans ce derby mancunien. Voilà pour le résultat en cours. À tout de suite sur RMC, on revient dans un instant.
RMC Intégral Foot.